Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin, vous nous emmenez en Grèce.
Voilà, rebonjour Guillaume Werner, et évidemment dans l'optique des législatives du 20 septembre, période à laquelle nous allons parler de la Grèce sur le plan beaucoup plus politique. Alors notre invité Michel Sévignon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à Paris 10 Nanterre, grand spécialiste non seulement de la Grèce, où vous m'avez dit tout à l'heure, vous passiez à peu près un tiers de votre temps, et d'autre part de l'ensemble de la région également. Alors les conséquences sociales, au moins qu'on puisse dire, Michel Sévignon, c'est que la société depuis quelques 6 ans de crise, comme on dit entre guillemets, la société a été profondément secouée. Alors comment est-ce qu'elle réagit par rapport à elle-même, par rapport au pouvoir politique, par rapport à ce qu'on a estimé souvent comme la volte-face du Premier ministre Tsipras, qui a présenté sa démission après avoir fait accepter un mémorandum extrêmement strict, le mémorandum évidemment de la Troïka, c'est-à-dire la Commission, la Banque Centrale Européenne et le FMI, et qui en même temps avait convoqué un référendum gagné à 62% quelques semaines avant au début du mois de juillet, le 5 juillet. Alors, est-ce que cette notion de volte-face, est-ce que vous la retenez si vous vous mettez à la place, évidemment, des Grecs?
Alors, si on se met à la place des Grecs, bon, autant que ce soit possible, dans une période à l'heure actuelle de tension, de désespérance aussi, de sentiments extrêmement mêlés, je pense que effectivement, la notion de volte-face, c'est-à-dire Tsipras est vu comme quelqu'un qui, je crois que là, ça rejoint les 62% qu'il a obtenus lors du référendum. Quelqu'un qui s'est bien battu depuis le 25 janvier, quelqu'un qui est profondément honnête, quelqu'un aussi qui a une bonne tête et qui est un excellent orateur. C'est beaucoup d'avantages. Donc, ce Tsipras, maintenant, il a dit des choses, n'est-ce pas? Mais on savait déjà à l'avance qu'il n'allait pas obtenir tout ce qu'il proclamait, tout ce qu'il réclamait. On le savait bien, disent les Grecs.
Cela aurait supposé le problème résolu.
Voilà. Et donc, on n'est pas, en un sens, totalement surpris. Du moins pour une partie de son électorat. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 62%, ça comprend les 35% qui ont voté pour lui le 25 janvier aux élections législatives, mais ça comprend aussi 25% qui viennent de tout d'ailleurs. Et d'où ? Ils deviennent, y compris de l'opposition de la Nouvelle Démocratie.
Et comment se reporteront-ils?
Alors voilà,
le 20 septembre.
Comment se reporteront-ils le 20 septembre? Ça, on a les premiers sondages. Et les premiers sondages donnent maintenant un écart entre le Syriza et puis la Nouvelle Démocratie qui s'est singulièrement restreint. On parle de quelque chose comme pas plus de 4 ou 5% de différence. Et peut-être moins. Et puis, les sondages vont se multiplier à mesure que se rapproche l'échéance. Donc, on a cet aspect des choses.
Alors, il y a l'aspect donc d'un Premier ministre, sa personnalité. Et puis, il y a aussi l'aspect partisan, c'est-à-dire Syriza, qui était au fond, à l'origine, un mouvement de protestation, qui a l'air par moment, comme ça, vu de l'extérieur, de fonctionner un peu comme une grande ONG. Et puis, qui est peut-être moins homogène qu'il y paraît.
Alors, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Il a éclaté. Syriza,
oui.
Syriza,
oui, en plus, il y a eu cette
éclaté. Et à peu près, peut-être un quart de ses députés a rejoint la nouvelle formation d'un ancien ministre maintenant qui s'appelle Lafazanis et qui s'appelle, si je ne me trompe, quelque chose comme Unité Populaire, s'il faut traduire ça. Et quel va être le score que va faire cette nouvelle formation? On parle entre 5 et 9%.
6h54 sur France Culture, ce sont les enjeux internationaux de Thierry Garcin.
Alors Michel Sévignon, il y a évidemment un article très intéressant paru le 28 août dans Le Monde de Madame Maria Negroponte Delivanis, qui est d'ailleurs rectrice de l'université macédonienne de Thessalonique, et bon, qui a un certain nombre d'arguments, mais qui dit en gros, il n'est pas lisible, ce monsieur Tsipras, on ne le comprend pas.
Oui, alors...
il n'est pas cohérent, il n'est pas logique, il n'est pas lisible. Quid de son action politique?
Oui, alors, bien entendu, puisqu'il a dit, dans un premier temps, nous ne signerons plus aucun mémorandum. Il appelle les gens, dans ce référendum, à voter non, c'est-à-dire non aux propositions de l'Europe. Et moins de 10 jours après, 5-13 juillet, il signe à Bruxelles un accord dont les termes sont au moins aussi durs que tous les accords précédents, y compris les accords qui avaient été signés avec le précédent gouvernement de Samaras, qu'il honnit. Alors, effectivement, ça n'est pas très lisible, et ça, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai donné une espèce d'explication de type psychologique sur l'attachement qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. C'est l'attachement vis-à-vis de la personne, mais pas du tout vis-à-vis de ce que vous appelez ces volte-face, à juste titre, à mon sens.
Alors, il y a aussi quelque chose d'important pour les Grecs, c'est évidemment ce qu'on a appelé la fierté nationale. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ont été maltraités par la chancelière allemande, qu'il y a eu tous les noms d'oiseaux qui ont circulé de part et d'autre, et qu'il y a cette idée, comme cela, sans doute, de subir, au fond, une double peine. C'est-à-dire, à la fois, vous, les Grecs, vous allez payer, dit Bruxelles et dit Berlin, et puis en même temps, avant, on va vous étrangler. C'est-à-dire qu'on va vous coller l'austérité. C'est un peu la double peine. C'est un vrai argument, d'ailleurs. On peut le relativiser, c'est un vrai argument.
Oui, mais ça,
sur le plan économique, on ne peut pas demander tout et n'importe quoi à quelqu'un.
Ça retentit, y compris dans le quotidien. Une toute petite anecdote, je rencontre un menuisier dans mon village qui me dit, juste après les accords, hein, vous nous tenez maintenant à la gorge, comme ça.
Oui.
Alors, je lui dis que, ma foi, personnellement, je n'en peux mais. Et immédiatement, il dit, oh bah attends, je ne parle pas pour toi, bien entendu, je te connais depuis longtemps, pas question. Mais il n'empêche. Autrement dit, si vous voulez, vous avez cette idée que nous sommes un vieux peuple, et Dieu sait s'ils en sont conscients, hein, et vous nous proclamez sans arrêt que nous sommes à la racine de l'Europe. Europe, c'est même un mot grec. Et puis, voilà, à l'heure actuelle, vous nous tenez à la gorge. Oui, sans aucun doute.
Alors, les législatives, est-ce que vous craignez, Michel Sévigné, ou est-ce qu'on peut craindre donc de l'abstention?
Oui, on peut craindre de l'abstention parce que d'abord...
D'habitude, elle est acceptable.
Elle est autour de, disons, 30%, 25-30%. Et là, il y a encore un quart de l'électorat qui, apparemment, lors des sondages, ne s'est pas prononcé. Sont-ils des candidats à l'abstention, ces gens-là? C'est une énorme question pour laquelle il n'y a pas encore de réponse, bien entendu.
Voilà, alors juste d'un mot quand même, parce que là ça fait 57 minutes 58, on va finir par ne donner que le titre dans l'émission à un moment donné. On a un petit peu de temps quand même. En ce qui concerne ces législatives, est-ce que, question finale, on peut craindre non seulement l'abstention, mais une nouvelle donne, c'est-à-dire une reconfiguration partisane entre partis politiques, puisque...
Oui, il y a déjà nécessairement une
par Syriza.
Par Syriza, l'éclatement de Syriza est une première réponse. Et puis, par ailleurs, quels vont être les petits partis centristes du genre Potami, etc. Quelle va être leur attitude? Vont-ils s'adjoindre dans un gouvernement plus large que celui qui était de Syriza préalablement? Ça, je pense que la question reste posée.
Merci beaucoup. Thierry Garcin. On vous retrouve demain pour d'autres enjeux internationaux.